Dans le cadre de son cycle « Les conférences de controverse », le mensuel catholique de la tradition présente « Le clubisme et les clubs », une conférence donnée par Adrien Loubier et enregistrée par Tradiffusion. Adrien Loubier est né dans une famille d'Action française qui donna plusieurs vocations à l'Église, tout en subissant l'excommunication pratique de l'entre-deux-guerres, puis les condamnations politiques de 1946. Il a grandi et mûri dans le combat de la cité catholique. Étudiant chez les jésuites télardiens, il est sorti ingénieur d'une de leurs grandes écoles. Vivement interpellé par la crise de 68, il s'est passionné pour la sociologie. Il est également éditeur, imprimeur et expert judiciaire. Il a écrit les ouvrages suivants. Pour une scolarité catholique, Nous voulons Dieu dans nos écoles, Groupe réducteur et noyau dirigeant, La franc-maçonnerie, c'est inconnu, Introduction à une étude catholique et contre-révolutionnaire de la littérature française, Démocratie cléricale, Échec au ralliement, Le clubisme et les clubs aux éditions Tradiffusion, Littérature française, le XVIIIe siècle. Ajoutons qu'il est également connu pour diverses activités touchant à l'éducation, notamment son œuvre boursière, le CEFOP, auquel de nombreux parents de la tradition doivent le paiement des études de leurs enfants, ainsi que par ses cours par correspondance de bonne réputation. Sa conférence traite des thèmes abordés dans son ouvrage, à savoir Lyons, Rotary, Rotaract, Table ronde, Kiwani. Que sont tous ces clubs dont les insignes ornent les accès de nos villes et les boutonnières de nos contemporains? L'antichambre de la franc-maçonnerie? Écoutez ce qui suit, vous le saurez. Tradiffusion vous souhaite un agréable moment.
Cette conférence, je suis très inquiet parce que M. Rouault, en me présentant, a fait remarquer que c'était la deuxième conférence et que la première s'était très bien passée, ce qui m'a donné des inquiétudes. Quant à la seconde, j'espère qu'elle va également bien se passer, que vous ne la terminerez pas en me jetant des objets divers à la tête. Cependant, je m'excuse à l'avance de ce que vous allez avoir à me supporter pendant 90 minutes. Je tâche de m'adapter, vous voyez, je fais dès le départ des efforts, puisque je suis en Suisse. Moi, j'aurais dit 90, évidemment, comme tout bon Français. Mais ça me permet de casser au passage que, effectivement, je suis français et je suis en Suisse, et que peut-être certaines choses dans mes propos vont être un peu décalées. Alors, vous n'hésiterez pas à la fin de la réunion à me poser toutes les questions que vous voudrez pour remettre peut-être certaines analyses au goût du pays où j'interviens et dont je dois dire que je le connais assez mal. La question du clubisme et des clubs, bon, je pense que c'est inutile. Ce n'est pas quelque chose que vous ignorez. Tout le monde a entendu parler du Rotary Club, du Kiwanis, du Lyons Club, de toutes ces structures qui nous entourent. Je voudrais au départ commencer par dire combien les questions qui les concernent dans la recherche élémentaire des gens sont généralement mal posées. Pratiquement, je suis venu à cette étude, d'ailleurs, à cause de ça, parce que beaucoup de gens me posaient la question, et mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, est-ce que c'est la franc-maçonnerie? Est-ce que c'est des francs-maçons? Est-ce que c'est un féodé à la franc-maçonnerie? Vous voyez, le thème, le registre habituel des questions, c'est généralement celui-là. Et c'est, je crois, vraiment prendre le problème tout à fait de travers. Parce que, qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? Mais la franc-maçonnerie, ce sont des sociétés secrètes. La franc-maçonnerie, ce sont différentes associations occultes qui réunissent de façon secrète des gens sur des buts qui sont secrets eux-mêmes, même pour les membres. Or, les clubs ont un insigne. Et il faut savoir que le port de l'insigne est obligatoire dans les clubs. Donc déjà, quand je dis simplement cette petite réalité, je fiche par terre complètement la question précédente, parce qu'on n'aborde pas l'étude d'une structure sociale qui s'affiche par un insigne de la même manière qu'on aborde l'étude d'une société secrète qui se cache soigneusement. On voit bien que déjà, ce n'est pas une société secrète. D'autre part, C'est une manière d'aborder le problème, en particulier quand vous avez à parler à des gens ou peut-être que vous cherchez à détourner quelqu'un de rentrer dans un club parce que vous êtes conscient que ces clubs présentent des dangers, et on va y venir. Si vous commencez par dire « c'est de la franc-maçonnerie », en quelque sorte, vous offensez la personne qui est en face de vous. Parce que les gens qui sont dedans ou qui sont sur le point d'y rentrer ou qui sont peut-être quelquefois en train d'en sortir n'ont absolument pas conscience d'être franc-maçons, pour la bonne raison qu'ils ne le sont effectivement pas. Le problème est tout à fait autre. Et par conséquent, il faut aborder le problème d'une façon qui soit adaptée et qui soit claire pour bien comprendre la réalité qui est une réalité sociologique, qui est une réalité sociale, la réalité des clubs. Je voudrais l'aborder avec vous et vous entraîner, si vous voulez, à réfléchir sur ce sujet d'une manière qui soit scientifique. Quand le botaniste étudie une plante, je prends des exemples, mais des exemples qui permettent de transposer dans la réalité de la sociologie. Parce que la sociologie, vous savez, c'est aussi un terme dont tout le monde est sociologue aujourd'hui. Tout le monde est sociologue dès l'instant qu'on parle, qu'on baratine, passez-moi l'expression, sur des sujets sociaux. On a même inventé récemment, d'ailleurs, une catégorie spéciale de sociologues qui s'appelle les politologues. Ça me fait doucement rire quand j'entends ça à la radio, et à la télévision, je ne le vois pas souvent parce que je n'ai pas la télévision, mais enfin, c'est assez risible, les politologues, ça peut bien vouloir dire. Bon, la logique d'une politique qui est une illogique organisée. Vous voyez, ça ne va pas très creux. Mais prenons un exemple d'une science, le botaniste. Le botaniste étudie une plante. Ben, globalement, il va l'étudier, soit pour la cultiver, soit pour la combattre si c'est une mauvaise herbe. Il va l'étudier sur trois fronts, sur trois plans, à trois niveaux si vous préférez. Il va étudier le terrain où elle pousse. Il va étudier quelle est sa structure organique. Et il va étudier quels sont ses fruits, comment elle se reproduit. Et pourquoi elle, à quoi elle peut servir. Commençons donc, si vous voulez, par étudier le terrain dans lequel pousse la plante que j'appellerai les clubs. C'est quelque chose d'essentiel. Je pense, vous verrez ceux qui liront ou ceux qui ont lu mon petit livre sur le clubisme, que j'ai commencé par là, comme je commence par là mon exposé aujourd'hui, parce que c'est véritablement la clé de la bonne compréhension des clubs. Les clubs, c'est un phénomène social. C'est un phénomène social qu'on peut situer historiquement à partir de 1920. C'est en 1920 qu'apparaissent les premiers clubs, le Rotary, le Lions Club, quelques années plus tard, 24 ou 26, peu importe les détails de date d'ailleurs. Mais enfin, disons que c'est après la Première Guerre mondiale. Et dans quel terrain pousse-t-il? Eh bien, pour le comprendre, il faut réaliser que nous vivons, depuis la Révolution dite française, nous vivons la généralisation d'un phénomène, d'un autre phénomène social, qui est celui de la Révolution, c'est-à-dire de la déstabilisation, de la déstructuration, de la destruction de toutes les institutions sociales, naturelles, qui étaient généralement celles de la chrétienté, ou tout au moins inspirées et nées dans la chrétienté. Et c'est un fait, là, que je constate, dont on peut dire que nous sommes pratiquement arrivés au terme aujourd'hui. Il n'y a plus grand-chose qui nous relie. Et cette déstructuration, ça correspond à la phase de ce que les révolutionnaires appellent le solvé. Solvé et coagula. Dissoudre et reconstruire autrement. Eh bien, les clubs, c'est le coagula, et le solvé, c'est le terrain dans lequel ils ont poussé. Quelle est la carte d'identité d'un individu normal dans une société normale? Il faut se reporter en arrière, parce que, malheureusement, nous ne sommes plus du tout dans une société normale. Et même si, quelquefois, nos petites structures familiales tiennent encore, nos petites associations, nos groupes constituent encore une espèce de tissu social qui survit au milieu d'un agent corrosif général qui détruit tout, il ne faut pas perdre de vue que ces petites structures sont des exceptions. Encore au XVIIIe siècle et encore au XIXe siècle et encore avant la guerre mondiale, un enfant naissait. On lui faisait, en somme, sa carte d'identité en disant quoi ? Eh bien, cet enfant, il est né à tel endroit. C'est-à-dire qu'il va grandir dans le cadre d'un village, d'une petite ville, d'une commune, où il a sa famille, donc l'entourage de sa famille. Et il est dans le cadre d'une province, ou peut-être ici en Suisse d'un canton. Et il est certain qu'un Vaudois, c'est pas un Zurichois. Je ne sais pas si on dit un Zurichois, je m'excuse si je fais des erreurs. Donc on est déjà par les structures locales, si vous voulez, on est dans un encadrement, un enracinement de l'individu, de cet enfant qui naît ou de cet adolescent qui grandit. Ensuite vont s'ajouter pour lui un certain nombre d'autres réalités parce qu'il va falloir qu'il gagne sa vie. Donc qu'il ait un métier, une profession. Alors il va être militaire, il va être avocat, il va être charpentier, que sais-je. Et vous voyez tout un ensemble de choses que j'ai énoncées là, qui font que l'enfant, normalement dans des structures normales, va être pris dans tout un ensemble de cadres de ce qu'on appelait naguère les corps intermédiaires, régionaux, locaux, professionnels, de métiers, etc., qui vont l'enraciner, qui vont lui donner son cadre de vie. Et normalement, le fils de charpentier est charpentier. Le fils d'avocat est avocat, donc il retrouve aussi l'ensemble de sa famille, l'entourage de sa famille, les relations de sa famille, les relations de sa profession. Donc cet enfant, cet individu, normalement, dans une société normale, il n'est jamais abandonné, il n'est jamais seul. Transposé maintenant dans ce qui se passe aujourd'hui et supposé, en vous intéressant principalement au cadre de la société, car bien sûr disons-le tout de suite en passant, enfin, les clubs ne s'intéressent pas à l'ouvrier. Pour l'ouvrier, il y a d'autres choses. On pourra l'évoquer tout à l'heure à la fin. Les clubs s'adressent au cadre. Alors, le cadre, au XXe siècle, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, d'abord, il est obligé de quitter sa famille et sa province pour aller faire ses études à Paris. C'est évident. Parce qu'il n'y a qu'à Paris qu'on peut faire des études. Je parle pour les Français, excusez-moi. En Suisse, c'est peut-être Genève ou Zurich, je ne sais pas. Mais enfin, il faut qu'il s'en aille. Qu'il soit pensionnaire. Donc là, il connaît déjà personne. Puis quand il va avoir passé ses diplômes, il faut qu'il trouve une place. Cette place, elle va être ici ou elle va être là. Et s'il veut avancer dans sa profession, il faut qu'il change de pays. Il faut qu'il s'en aille ici, il s'en aille ailleurs, qu'il soit perpétuellement un déraciné. C'est-à-dire que tout cela a réussi, si vous voulez, à créer un contexte dans lequel les hommes qui ont une certaine responsabilité sociale, professionnelle, sont continuellement en train de changer de pays, de relations, de maison, d'entreprise, de métier souvent. Sinon, ils sont chômeurs. Et là, ils se retrouvent perdus pour la patrie. Donc, ils vont continuellement mener cette vie errante dans laquelle même leur famille va être déracinée, éparpillée. La famille, depuis le début du XXe siècle, a perdu ses racines. Regardez autour de vous, moi-même, tous mes amis, si vous voulez, on est continuellement, ben même pour se marier, on change de province, on change de pays. Je le racontais hier, j'ai étudié récemment l'histoire de ma famille. Pendant 7 siècles, ma famille est restée dans un triangle de 10 km de côté. Pendant 7 siècles, mes ancêtres ont vécu dans un triangle de 10 km de côté. Alors vraiment un tout petit canton. On était là. On ne bougeait pas, on se mariait, on achetait un peu la terre du voisin, on épousait la fille du terrien qui était à côté, et ainsi de suite. On avait des racines profondes. Aujourd'hui, on n'a plus aucune racine. Toutes ces notions-là sont complètement diluées. La famille elle-même, ben mon Dieu, ma propre famille, parce que vous voyez, j'ai une fille à Angoulême, j'ai une fille à Rouen, j'en ai une autre à côté de Lyon, et moi je suis en Berry. Et puis mon fils, il est à Beach pour travailler, il est à l'autre bout de la France. Et nous sommes tous dans la tradition, mais on est obligés, il n'y a pas moyen autrement. Alors qu'est-ce qui fait que nous restons unis, que nous restons quand même une famille ? C'est parce que nous sommes catholiques, Mais des catholiques, ça devient rare. Nous devenons des bêtes curieuses. Le fait est qu'en général, les familles sont dans le même contexte, elles sont éparpillées, puis c'est tout, et puis chacun trouve son boulot, puis on se perd plus ou moins de vue. Les cousins germains ne se connaissent plus, quelquefois même les frères et sœurs ne se voient plus que tous les X années. Et puis donc on est seul. Donc vous êtes embauché comme cadre dans une société qui est à Brest, vous ne connaissez absolument pas la Bretagne, ni les Bretons, vous êtes vous-même berrichon ou provençal, vous arrivez là, et voilà. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous avez devant vous des nécessités évidentes, devant vous et en vous. Vous avez ce besoin de vie sociale, d'amitié, de relations, de rencontres qui est inévitable, qui est humain, qui est nécessaire. Puis vous avez vos besoins professionnels, il faut réussir. Vous êtes commerçant, il faut trouver des clients. Vous êtes cadre, il faut trouver une maison à acheter, il faut trouver un notaire, on ne sait pas lequel prendre. Oui, et même le notaire, par exemple, en France, c'est encore très courant de trouver le notaire qui est de père en fils notaire. Alors vous allez dire, voilà des gens qui ont une racine. Mais non, eux aussi sont déracinés parce que le notaire passe son temps à ne pas avoir les mêmes clients. C'est-à-dire qu'il vend une maison aujourd'hui, dans 4 ans, il rachète cette maison, enfin il l'a fait acheter par un autre client, et son client s'en va à l'autre bout de la France ou du pays. Et donc il passe son temps à vendre la même maison à l'un ou à l'autre. Il passe son temps... L'avocat passe son temps à plaider la cause contre une administration d'un cadre d'une autre administration qui change tout le temps. Donc il plaide une cause, puis la fois suivante, c'est un autre. Vous voyez. Tout est continuellement bouleversé dans ce que les Américains appellent le turnover. Hein, ça tourne, ça vire. Voilà. Alors voilà un terrain qui est évidemment extrêmement favorable à ce petit phénomène, apparemment petit, des clubs. C'est-à-dire qu'il va y avoir un type qui, dans la ville, va réunir 2 ou 3 personnes, va dire, voilà, on va fonder un club d'entraide, un club de service, et on va aider à l'accueil et à la promotion des jeunes cadres qui arrivent. Alors, on va être d'abord 3 ou 4, et puis ensuite 6 ou 7, et puis ensuite 10 ou 30, et le club va prospérer. Et il va prospérer avec des membres qui vont continuellement changer aussi. Mais qui, en arrivant dans le club, vont avoir l'insigne du club de l'autre ville où ils étaient avant. Donc ils vont pas être tout seuls. Ils vont commencer par trouver des copains qui vont tutoyer sans les connaître. C'est le grand style de toutes les réunions de ce genre aujourd'hui. Et donc ils vont avoir des relations immédiatement. Des relations qui vont les aider à se placer dans la vie. Qui vont permettre à leurs femmes d'avoir quelqu'un avec qui jouer au bridge ou boire une tasse de thé quand ils ont envie de sortir. Et puis eux, ils vont avoir des relations qui vont leur permettre de vendre leur camelote ou d'acheter ce qui les intéresse, ou etc., etc. Donc nous nous trouvons en face d'une structure qui est en réalité une substitution, une sorte de construction artificielle qui est plaquée sur une réalité détruite. C'est-à-dire que normalement, dans une société normale, il n'y a pas lieu de s'en aller au diable. On a normalement son travail sur place, on a ses relations, on a la famille, on a les cousins, on a les grands-cousins, on a des racines. Aujourd'hui, plus personne n'ayant de racines, on remplace les racines par le club. Je n'ai, remarquez bien, jusqu'ici porté strictement aucun jugement, ni péjoratif, ni, ni de valeur sur le phénomène. Je décris comment il se crée, en quelque sorte à quelle nécessité il répond, car effectivement il y a une nécessité. Vous allez me dire, cette nécessité, on pourrait la combler d'autres manières. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Et d'une certaine manière, nous autres, par exemple, dans notre petite société d'abominables intégristes, comme disait tout à l'heure mon ami Rouault, n'est-ce pas, dans les groupes qui font que nous nous retrouvons ici, que nous nous connaissons, mais nous formons aussi, non pas un club, mais une petite société qui, au lieu d'être réunie sur des termes factices, est réunie ou se constitue autour du besoin de défendre la vérité, de défendre la messe, de défendre des valeurs réelles du catholicisme et de notre foi. Donc nous construisons quelque chose qui est valable, qui est de valeur. Mais nous répondons de cette façon-là aussi aux mêmes besoins, parce que nous sommes tous déracinés. pour ne prendre qu'un exemple parmi nous, vous avez des gens qui sont venus de Bordeaux et qui sont arrivés en Suisse pour travailler. Et ils travaillent à quelque chose de bon, et bien ils s'y font des relations, et c'est une micro-société dans la société qui se crée pour répondre à un besoin. Parce qu'il est bien évident qu'il faut qu'on se connaisse, qu'on puisse s'aider, s'entraider, c'est normal. Mais ici, sur quoi se fondent-elles? Alors là, je commence à rentrer un peu dans les jugements, je dirais, de valeur. C'est qu'elles se créent sur trois bases qui sont essentiellement les trois concupiscences. C'est-à-dire qu'il y a la chair qui est l'argent. C'est-à-dire que le clubiste recherche, a besoin, si vous voulez, de trouver quelqu'un qui va lui acheter sa camelote ou qui va l'aider à arriver dans sa situation ou à gagner davantage d'argent, à faire un avancement. Donc il a besoin de relations pour ça. Il a également besoin de relations mondaines pour paraître dans le monde, pour que sa femme ne soit pas une cloche, pour qu'avec un insigne, il dira « celui-là, c'est un membre du Rotary, c'est un homme influent ». Et donc il va satisfaire par ce biais aussi ses besoins d'ambition, c'est-à-dire la concupiscence des yeux. C'est à ces trois besoins-là, on les retrouve automatiquement dans l'appel. Et là, je dis que ça commence à montrer le bout de l'oreille. Parce que si vous observez bien les motifs pour lesquels les gens recherchent un club et rentrent en club, vous allez toujours trouver ces trois motifs-là. C'est pas pour défendre la vérité ou pour aller à la messe de Saint-Pie-V qu'on rentre dans un club. C'est bien évident. C'est parce qu'on a besoin de relations pour arriver dans la vie. Gagner de l'argent, se pousser du col dans la société, et puis passer pour quelqu'un de bien et d'influent. C'est très clair. Et vous le retrouvez même dans l'énoncé des propositions de tous les clubs. Tous les clubs vont vous dire « Notre but, club de service ». C'est le nom générique que se donnent pratiquement tous les clubs, les plus nombreux. Les clubs de service. Et ils vous disent « Nous voulons faire promouvoir l'entraide, l'amitié et la bienfaisance ». L'entraide, l'amitié et la bienfaisance. C'est donc, globalement, un premier jugement qu'on peut porter, c'est donc que dans ces besoins, dans ces approches, dans ces propositions qui sont faites, on retrouve en fait l'essentiel de l'esprit du monde. C'est des clubs mondains, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils portent un insigne. C'est pour se faire voir. Alors vous voyez bien combien nous sommes totalement dans un autre domaine que la société secrète qui cherche à avoir une action et une influence en secret. Ici, c'est le contraire. On cherche à se faire voir. On cherche à être connu. On cherche à être influent. Là, c'est parfaitement différent. Et par là même, en somme, à remplacer, à trouver un système de substitution inconsciemment, parce qu'on n'en est plus là. Quand je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas, des corps intermédiaires, ça évoque certainement quelque chose dans votre esprit à vous, mais si je le disais là dans la rue à 50 personnes, il n'y en a pas une sur 50 qui saurait me dire ce que ça veut dire. Les corps intermédiaires, les professions, les métiers, les provinces, les communes, tout ce cadrage dans lequel la vieille France, comme la vieille Suisse, vivait et probablement survit encore en beaucoup d'endroits, parce qu'on n'arrive jamais à dissoudre totalement la réalité. Je peux vous dire qu'en France, un berrichon est quand même encore un berrichon. Mais ce qu'il y a, c'est que la majeure partie des élites des berrichons, ils sont dans les banlieues de Paris, et ils sont fichus, ils sont perdus pour le Berry, et de temps en temps, quand même, alors ils reviennent retrouver leur petit Berry, leur petit coin. Ah oui, c'est vrai, mes parents, ils étaient dans ce village. Vous ne pouvez pas tuer complètement la réalité. Mais il faut reconnaître que la révolution l'a dissoute, l'a écrasée, d'une telle manière que c'est très difficile de la retrouver. Donc nous retrouvons bien l'esprit du monde, et nous le trouvons dans l'entraide, l'amitié et la bienfaisance, mais avec certaines caractéristiques. Ici, si vous voulez, j'entre dans la deuxième partie que j'évoquais de mon travail d'analyse, qui est celui du botaniste. Je viens de voir dans quel terrain pousse ma plante, la base de mon phénomène. C'est le terrain du solvay. C'est la... la destruction pratique de tous les cadres naturels de la vie et le déracinement des hommes ayant une fonction sociale, et particulièrement, je dirais, des élites, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres, mais ça veut dire que ce sont les cadres de la société. Les cadres d'entreprise, les cadres de la banque, les cadres de la loi, de l'administration, etc. Tous ces gens-là, aujourd'hui, il faut qu'ils bougent. Ils bougent. Et quand un haut fonctionnaire ou simplement un cadre d'entreprise pense à retraite, il a fait 15 garnisons, comme disaient les militaires. C'est-à-dire qu'il a fallu que 15 fois, il reconstruise sa vie et l'entourage de sa vie et les amitiés dont il a besoin pour vivre. Alors maintenant, j'aborde la structure organique de la plante. Comment c'est fait ? En réalité, un club, c'est une sorte de démocratie, et en abordant cette structure, il faut que je dise quelque chose d'important, c'est que ce que je vais dire d'un certain stade des clubs, je peux le dire à peu près de toutes les structures sociales existantes aujourd'hui. Ce fonds commun qu'on retrouve dans les clubs, on va le retrouver, si on pousse l'analyse du point de vue sociologique, on va le retrouver dans les loges, on va le retrouver dans les syndicats, on va le retrouver dans les coopératives, on va le retrouver dans l'Assemblée dite nationale française, et aujourd'hui, vous savez qu'il y a... etc. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de données qui sont classiques, qui sont communes, et qui engendrent un fonctionnement non pas rigoureusement identique, mais en tout cas sur le même modèle. Et ces points identiques, eh bien, elles se résument à ce que la Révolution dite française a donné comme devise à sa République, devise qui provient de la devise des clubs de Jacobins. Et c'est une devise d'ailleurs écourtée. Cette devise, c'est « liberté, égalité, fraternité ou la mort ». La République française a supprimé « ou la mort ». Je tâcherai d'en dire un mot tout à l'heure quand on y reviendra, mais ça a un sens très précis. Liberté, égalité, fraternité. Alors, je vous lis, parce qu'il faut se référer à eux, c'est là que c'est le plus simple. Voilà. Je vous demande pardon. Non, je ne retrouve pas ma page, mais peu importe. Ces clubs s'annoncent. Ah, voilà, amitié, entraide, bienfaisance. On propose toujours, dans la présentation des clubs, voilà, amitié. Le Rotary International, je vous lis le texte de présentation, par exemple, du Rotary. Le Rotary International est une chaîne d'amitié entre hommes de bonne volonté. Le Rotary est ainsi devenu un trait d'union puissant entre les Rotariens, et il comporte un large programme d'activités au service d'autrui. Leur activité bienfaisante s'est manifestée dans la création d'œuvres nombreuses. Notez bien qu'il s'agit de bienfaisance et non pas de charité. Hein. C'est tout à fait autre chose. Alors, ces gens-là, donc, vous annoncent un programme qui est fondé sur trois points que vous retrouvez, effectivement, dans les quantités d'autres. Dans des quantités d'autres structures, qui est celui de la liberté. Alors, vous entrez dans le Rotary Club ou dans le Lyon, ça vous est dit et ça vous est affirmé d'une façon absolue, de façon complètement libre. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Vous avez le droit d'avoir votre idéologie. Vous avez le droit d'avoir la religion que vous voulez. Tout ça, c'est indifférent pour le club. Par exemple, le Rotary s'efforce de promouvoir l'amitié, l'amour de la paix. Le Rotary sait dans son unanimité que sa conception du service de l'humanité sous toutes ses formes est en harmonie avec toutes les religions et n'a aucune interférence politique. Comme c'est gentil. Et c'est là que vous voyez commencer à voir le dessous des cartes. Chacun de ses membres est à cet égard libre de nourrir les idées politiques qui lui conviennent. Il lui est seulement demandé d'être loyal dans ses croyances et ses opinions. Bien sûr, ailleurs aussi, on vous dira que la table ronde, par exemple, s'interdit formellement toute expression d'opinion, toute discussion, tout vote relatif aux partis politiques ou aux différentes églises. Donc vous êtes libre, hein ? Vous êtes libre, mais à une condition, la condition du libéralisme. Vous êtes libre à condition de ne pas prétendre que vous avez raison. C'est-à-dire que on retrouve bien ici la liberté qu'on va trouver partout. Vous êtes libre tout à fait d'être catholique, mais à condition de ne pas dire que le catholicisme, c'est la vérité. Parce qu'à ce moment-là, vous cesseriez de respecter la liberté de l'autre. Parce que si moi je suis protestant, après tout, je peux dire, je peux être protestant, j'ai le droit d'être protestant. Donc si vous dites que vous avez la vérité, moi je ne l'ai plus. C'est très important, ça. Nous sommes dans la liberté, dans le libéralisme libéral. La liberté. Et là, le point qui soutient, qui sous-tend, qui complète cette liberté, c'est l'égalité. Attention, pas n'importe quelle égalité. Ici, j'aborde un point de structure très important dans les clubs. Les individus sont dans les clubs tous égaux. Et là encore, grosse erreur que j'ai très souvent entendu faire. Les gens, pour dire ce type-là, il est suspect, il doit être franc-maçon, c'est le président du Rotary Club du lieu. Et bien ça, c'est une erreur sur au moins plusieurs plans. Mais le premier plan, c'est que il faut savoir que le président d'un Rotary Club change systématiquement tous les ans, qu'en aucun cas un président ne peut être élu une année suivante, et que tous les membres du Rotary Club doivent à tour de rôle être président. C'est une obligation. Et c'est vrai dans la table ronde, c'est vrai dans le Lions Club, c'est vrai dans pratiquement tous les clubs. Il y a aussi un secrétaire trésorier, il y a aussi un vice-président, et il change tous les ans. Donc vous voyez que là, il y a dans l'esprit de beaucoup de gens, et je pense que je suis persuadé que parmi vous, là j'apprends quelque chose à certains d'entre vous, pensent, ah oui, il y a un président dans le Rotary Club, c'est le franc-mac dirigeant les autres. Pas du tout. Le président, à la fin de l'année, il a fini son mandat, terminé, il part, il ne peut pas rester, et celui qui est désigné à sa suite ne peut pas refuser. C'est clair. Donc on ne peut pas faire un brassage plus total, plus complet, et donc obtenir une égalité des membres plus parfaite, puisqu'il y a... Alors évidemment, vous ne pouvez pas éviter qu'il y ait un président dans un club, parce qu'il faut quand même bien quelqu'un qui invite le conférencier, qui donne l'heure de la réunion, qui prenne les décisions matérielles assurant le fonctionnement du club. Donc il faut un président, la solution est toute trouvée, tous les ans il change et tout le monde y passe. Comme ça, il n'y a pas de hiérarchie. D'être complètement à tour de rôle. Alors, évidemment, il y a une autre hiérarchie qui est extérieure. Alors là, c'est toujours l'éternel problème des doubles hiérarchies, et même des triples. Car il y a aussi, bien sûr, les visiteurs. Mais restons au niveau du club, si vous voulez, vous voyez que vous avez absolument un brassage qui est égalitaire. Et ça assure la liberté de conscience de chacun. Puisqu'à partir du moment où personne n'a d'autorité réelle, hein, vous avez un président, il a une autorité pour un an, vous comprenez, et puis l'année dernière, il était autre chose, l'année prochaine, il sera autre chose, c'est fini. Donc ça n'a pas de réalité substantielle. Donc ce président, il va être bientôt changé, il ne représente rien de plus qu'un des membres du club. Donc personne ne peut avoir d'influence plus que les autres. Donc aussi, il faut que tout le monde soit confraternel. On arrive au troisième pilier, si vous voulez, au troisième élément, qui est la fraternité. Évidemment, tout le monde est frère là-dedans, puisque tout le monde doit s'entraider, c'est le but du jeu. On doit aider les amis d'abord, donc les membres du club. Si j'ai un ami de club qui est... le directeur de Central Pneus, je n'irai pas changer les pneus de ma voiture ailleurs qu'à Central Pneus chez lui. C'est bien évident. S'il y en a un autre qui est installateur en chauffage, le jour où je ferai un chauffage, j'irai chez lui. Et puis je le recommanderai, etc. Ça, c'est le petit jeu normal. Qui est d'ailleurs un jeu humainement, légitime. Hein, il est évident, j'espère bien qu'entre vous aussi, entre Cato tradis, entre guillemets, bah, vous vous aidez, vous vous entraidez. C'est pas toujours vrai d'ailleurs. Quelquefois, dans nos milieux, on est plus sévère qu'ailleurs. Mais bon, vous voyez, il y a quelque chose de légitime, mais il y a quelque chose de confraternel, il y a un soutien, il y a un support. Donc liberté, égalité, fraternité. Ça, ça comporte des quantités d'interférences et de fruits. J'en suis pas encore aux fruits, je parle de fruits au sens de la structure des clubs. C'est-à-dire que quand vous avez un certain nombre de gens, alors là je parle, si vous voulez, de la circulation de la sève dans la plante. Comment ça peut marcher, un club ou une assemblée nationale ou n'importe quelle structure humaine dans laquelle vous avez trois principes affirmés à la base, liberté, égalité, fraternité? Eh bien, si vous avez 12 personnes, par exemple, qui sont réunies dans un club et qui vont discuter d'un sujet politique, social, religieux ou d'affaires, qu'est-ce qui va se passer? On va se passer que vous allez avoir 12 opinions différentes. Surtout en France, hein. Là, je ne sais pas si en Suisse, il y a peut-être des correctifs légers à apporter à la chose, parce que les Suisses ont peut-être plus de discipline que les Français. Mais enfin, vous savez, le français, c'est un martinet mélange de latin, c'est les Romains, de germain, c'est les Francs, et de gaulois, c'est les Celtes. Alors, vous savez, ça fait des mélanges souvent explosifs et généralement assez frondeurs. Par conséquent, en principe, quand vous allez avoir une discussion chez nous entre 12 personnes, il va y avoir 12 opinions, dont certaines vont se ressembler, être assez proches les unes des autres, c'est vrai. Alors qu'est-ce qui va se passer? Normalement, il y a conflit, parce que chacun va essayer d'imposer son opinion. C'est quand même normal, c'est humain. Vous avez un avis sur le sujet. Alors supposez qu'il s'agisse d'une décision, par exemple, à prendre sur le plan professionnel. Et supposez que les 12 personnes soient dans l'entreprise. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a une hiérarchie qui va intervenir, puisque c'est 12 personnes de l'entreprise qui, dans le but de construire une voiture, ont une décision à prendre sur cette voiture. Les 12 personnes vont discuter, vont apporter des éléments, etc. Puis il y a un patron qui va trancher, qui va dire, voilà, on va faire comme ça. Mais si vous faites ça, il est évident qu'il n'y a pas de liberté et qu'il n'y a pas d'égalité. Motif pour lequel, deuxième élément de structure qu'il faut rappeler aussi au sujet des clubs, vous n'avez pas de hiérarchie parce que la hiérarchie change tous les ans, mais vous avez un brassage, c'est-à-dire que les clubs ont tous comme règle qu'il faut chez eux jamais plus de un ou deux membres d'une même profession. C'est-à-dire qu'un club Rotary va se constituer avec un médecin, un avocat, un industriel, un restaurateur. Ça, ils ont toujours un restaurateur dans le coup parce qu'il faut quand même bien faire de temps en temps une bonne bouffe en France, hein, c'est nécessaire. Vous allez avoir un marchand de pneus, un artisan plombier, un petit entrepreneur, vous voyez, des cadres, mais de représentatifs de toutes les professions. Je vous fais grâce de vous chercher la citation, vous les trouverez là-dedans, il y en a plusieurs, et puis en général, je ne trouve pas mes citations quand je les cherche devant mon public, je m'en excuse. Mais donc ça, vous allez le trouver partout, tous les clubs ont cette donnée-là. Et de surcroît, pour assurer un plus grand brassage encore, et vous voyez combien ça correspond au terreau dont j'ai parlé tout à l'heure, ce terrain de déracinement, c'est qu'il est calqué sur ce déracinement du terrain, le club. C'est qu'en plus, là, beaucoup de clubs vont mettre des limites d'âge, vont mettre des quotas de renouvellement nécessaires. C'est-à-dire que si, dans l'année, il ne part pas un nombre suffisant de membres, on va en démissionner quelques-uns pour pouvoir embaucher des nouveaux membres, pour pouvoir faire rentrer des autres éléments représentatifs d'une autre génération, d'un autre milieu social, d'une autre entreprise, d'un autre milieu professionnel, etc. Oui. Et vous avez des clubs qui ont en particulier des systèmes de renouvellement systématique. Vous avez, c'est la table ronde en particulier, la table ronde a une limite d'âge à 40 ans. C'est clair et net. À 40 ans, tout le monde doit s'en aller. Alors c'est quand même très triste pour les pauvres membres qui, à 40 ans, sont obligés de frapper là. C'est déjà des vieux, vous comprenez. Et d'ailleurs, c'est un caractère que vous retrouverez dans énormément de choses, et pas seulement dans les clubs. Les jeunes chambres économiques, qui sont des clubs, mais les syndicats des jeunes notaires, les jeunes avocats, les jeunes ceci, les jeunes cela, vous trouvez ça partout. Hein, limite d'âge, 35 ans, 40 ans. Et après, on considère que vous êtes un vieux, vous n'êtes plus bon à rien, et il faut vous mettre à la casse. Alors là, quand même, ils ont inventé une structure. Ils ont créé un club qui s'appelle le Club 41. Parce qu'à partir de 40 ans, on est obligé de quitter la table ronde. Par conséquent, ben, on leur propose le Club 41. Les plus de 41 ans vont, c'est les vieux schnocks, là, c'est un autre club. Et alors, dans ce club, vous avez une pratique, par exemple, que je vous raconte, parce qu'elle est assez risible en même temps, mais en même temps très significative, très représentative. Ça, je ne l'ai pas, je la connaissais pas, cette pratique, quand j'ai publié ce livre, je l'ai apprise depuis. Les clubs 41 font régulièrement des repas tournants. Alors, le repas tournant, c'est une initiative tout à fait gastronomique qui consiste à prendre le repas à plusieurs endroits. Alors, on se réunit, par exemple, chez Madame Intel à 8h, et là, on boit l'apéritif et on prend les petits fours, les amuse-bouches. Et puis, alors, à 9h, on se réunit chez Madame Truc. On prend les voitures, on s'en va, et chez Madame Truc, là, on prend les hors-d'œuvre. Et alors, à 9h30, quand on a fini les hors-d'œuvre, on va chez Madame Machin, où on prend le plat de résistance. Et puis ensuite, alors, à 10h30, on va chez Madame Autretel, et là, on prend le dessert, et puis on fait la petite sauterie traditionnelle, n'est-ce pas, pour terminer la soirée. Vous voyez jusqu'où ça va, cette volonté de déracinement même de cette structure bien française, du bon repas français. Hein, vous imaginez le truc d'appétit. Moi, je ne suis pas partant du tout. Personnellement, j'aime bien manger au même endroit. Et vous en arrivez, si vous voulez. Là, vous en arrivez, si vous voulez. Là, vous en arrivez, si vous voulez, pour brasser les gens à ce degré-là. Hein, c'est qu'on passe de l'un chez l'autre pour manger les hors-d'œuvre, leurs plats, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment calqué sur le déracinement du monde moderne. Ce sont des clubs de déracinés qui vivent en déraciné. On ne doit pas se fixer à un endroit. Et de l'utilité de l'insigne, parce que quand on va en déplacement professionnel dans une autre ville, on va frapper à la porte du Rotary Club, on va dîner chez eux, et ainsi de suite. Et on se fait donc des relations à l'extérieur. Donc vous voyez à quel point les choses dans la structure même des clubs sont prévues pour y maintenir l'égalité. Vraiment, les membres, bon, il n'y en a pas un qui peut dire, si ces 12 personnes que vous avez réunies sont dans une entreprise, ont des soucis communs, ont des expériences communes, forcément, il se dégagera quelque chose de la réunion. Mais quand ils n'ont rien en commun de cette façon-là, quand ils n'ont même pas mangé au même endroit ni chez la même personne, que voulez-vous qu'il leur reste pour trouver une vérité commune? Rien. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Je reviens à ma structure, car c'est très important, ça. C'est très important parce que c'est une structure qui conditionne un mode de fonctionnement de ma plante qu'on retrouve et qu'on peut transposer dans des quantités d'autres cas. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que les 12 personnes vont discuter et puis qu'elles vont se séparer, bien sûr, sans rien décider. Est-ce que c'est gênant? Dans un club, pas tellement. Le but du club, c'est pas de décider quelque chose. Du moins, ce but n'est avoué nulle part. On ne vous dit pas « ce club a pour but de réformer la société ». Or, bien sûr, on vous dit des choses très générales du genre, n'est-ce pas, « nous devons favoriser le rapprochement entre les jeunes gens, les jeunes hommes, les femmes, nous devons rechercher un idéal de paix, le lyonisme remonte ainsi aux sources du christianisme et de la Renaissance ». C'est des évocations de ce genre. Mais on ne vous dit pas, on va faire quelque chose de précis. Et ça, c'est le propre de ce que Augustin Cochin appelait les sociétés de pensée. C'est comme ça qu'a démarré la Révolution. Augustin Cochin en fait la description historique. Bien, quoi qu'il ne reprenne pas, comme je l'ai fait, ces trois pôles, liberté, égalité, fraternité, si vous voulez, il en fait la description au XVIIIe siècle dans les salons littéraires. C'est comme ça que ça se passait. On réunissait des gens dans les salons littéraires, non pas pour faire quelque chose, mais pour parler, pour causer. On a commencé, on a inauguré de cette façon-là l'ère du parlementarisme. Eh bien, le club, c'est du parlementarisme. On se réunit dans les clubs avec, pour but sous-jacent, de faire ses affaires, de gagner de l'argent, de se pousser dans la société, de se faire remarquer avec des actions de bienfaisance. Alors on va, chez les lyonistes, dresser des chiens d'aveugles pour des aveugles qu'on ne connaît pas. Et chez les Rotary Clubs, on va créer des clubs d'accueil des villes françaises pour recevoir les jeunes qui arrivent et les aider à trouver une maison. Mais ça, c'est des choses qui permettent de développer une certaine forme d'idéal de boy scout. mais ça ne va pas plus loin. C'est d'ailleurs textuellement ce que j'ai entendu. Hein, j'ai entendu des discussions de types qui quittaient les clubs en disant « Oui, il y en a marre, votre esprit boy scout, tout ça, vous comprenez. Moi, j'ai été petit scout quand j'étais petit. Maintenant, je suis grand. Plus besoin de ça. Je vous quitte. » Bien. Ça arrive, hein. Mais ça arrive d'ailleurs très librement. Encore une fois, là, il n'y a pas du tout les caractéristiques de la franc-maçonnerie. Un clubiste peut quitter, démissionner quand il veut, il n'y a aucun problème. Pour un franc-maçon, à partir d'un certain grade, ce n'est pas toujours aussi évident. Hein. Donc, qu'est-ce qui va arriver à nos 12 personnes qui ronronnent ensemble sans but précis? Ben, il va arriver qu'un jour, dans le club, comme ça se trouvera dans n'importe laquelle de ces structures, il va y avoir effectivement une prise de position à prendre sur tel événement politique, religieux, social, grève, que sais-je. Alors à ce moment-là, là, le débat va risquer de s'échauffer. Les gens vont commencer à débattre un peu plus fort et à affirmer un peu plus fortement leur position. À partir de ce moment-là, quelqu'un va dire « Oh, écoutez, vous êtes tous bien gentils, vous causez, vous savez pas, moi je connais la situation, voilà ce qu'il faut penser. » Bon, « Dites donc, monsieur, va-t-on lui répondre ?» Vous n'êtes pas le président, vous n'êtes pas le patron, vous n'êtes pas en monarchie, vous avez votre avis ne vaut pas plus que le mien, et moi je pense différemment, et moi voilà ce que je pense. Écoutez, monsieur, alors les gens vont commencer à s'engueuler, peut-être à s'insulter, peut-être à se jeter à la figure des propos peu aimables. Alors à ce moment-là, que va-t-il se passer? Ben normalement, logiquement, le groupe devrait se séparer. C'est-à-dire que ça va bien. On a discuté un moment. On est tous bien gentils, on s'aime bien, mais enfin bon, maintenant, on a des choses sérieuses à faire. Et moi, je pense justement que cette grève, il faut la combattre. Moi, je pense qu'il ne faut pas la combattre. Ben, je vais aller la combattre, puis moi, je vais aller pas la combattre. Salut, les copains. On se dit au revoir et on s'en va. C'est logique. Mais non, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Et ça se passe pas dans les clubs, et ça se passe pas à l'Assemblée nationale, et ça se passe pas nulle part. Et ça se passait pas. C'est là où j'ai découvert le phénomène, vraiment, où je l'ai compris, j'avoue, en mai 68, dans ces fameuses assemblées générales qui se tenaient partout, sur les podiums, sur les marches des églises ou dans les amphithéâtres. Ça se passe pas, les gens s'en vont pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, il y a toujours un argument qui ressort. Et cet argument, c'est, messieurs, si nous nous séparons, nous serons individuellement faibles. Tandis que si nous restons ensemble et que nous prenons une décision commune, alors on sera fort parce qu'on sera nombreux. Cet argument-là, c'est celui que j'appelle l'argument de la fraternité. Restons frères pour être forts. Et cet argument-là, on n'imagine pas sa force. Pour l'imaginer, je reviens à ma devise des Jacobins de tout à l'heure, qui était, et ça figurait, au fronton de tous les clubs jacobins à Paris. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Et c'était d'un seul mot. Fraternité ou la mort. La République française a supprimé ou la mort, mais ça n'en est pas moins toujours vrai. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas cette fraternité, on vous tue. Vous serez tué. Il y a eu une guerre au milieu du siècle dernier, quelques États d'Amérique du Nord qui ont voulu faire sécession. On les a tués parce qu'ils voulaient rompre la fraternité. Et je évoque là une grande guerre qui a fait des millions de morts, parce que c'était ça, fraternité ou la mort. Fraternité ou la mort, parce que si on casse, si on brise cette fraternité, on brise le club, on brise l'Assemblée Générale, on détruit l'œuvre des autres, on détruit la Révolution. Et je vous indique ce moyen, c'est absolument évident. Si vous voulez enrayer un processus sociologique démocratique au sens démocratie révolutionnaire, c'est-à-dire au sens généralement admis aujourd'hui, fondé sur ce système de liberté, égalité, fraternité, ben il faut casser la fraternité. Messieurs, je vous aime bien, mais je vous salue bien bas. Moi, je m'en vais, parce que votre affaire est mauvaise. Vous êtes en train de faire une motion commune, et moi, je ne veux pas de votre motion commune. Et si vous faites ça, vous cassez tout, parce qu'ils ne peuvent plus continuer. C'est d'une force que vous ne soupçonnez pas. Je l'ai mis en œuvre. Et il faut être très fort pour le faire. Vous avez un maçon célèbre qui s'appelait Copin Albancelli, qui a fait ça avec sa loge. Il l'a écrit dans un livre qui s'appelle « Comment je suis entré en maçonnerie et comment je suis sorti de la franc-maçonnerie ». Je vous recommande la lecture. Si vous arrivez à le trouver en bouquinerie, c'est un livre absolument passionnant à lire. Il a cassé la fraternité. Et il a révélé tous les secrets, en plus. Alors ça, il s'est pas fait assassiner, ça c'est un miracle. Parce qu'il s'est converti. Mais liberté, égalité, fraternité, c'est un processus qui fonctionne comme un engrenage, qui fonctionne comme une moulinette dans laquelle, inévitablement, si vous restez, vous serez réduit, vous serez passé à la moulinette. Vous sortirez forcément en ayant perdu quelque chose. C'est ce que j'ai appelé dans un autre petit ouvrage beaucoup plus ancien, les groupes réducteurs. C'est-à-dire que ces groupes-là entraînent une réduction des individus parce que le jeu de la liberté et de l'égalité, à partir du moment où on y consent volontiers par le moteur de la fraternité, eh bien, vous êtes obligé d'admettre de plus en plus de choses, puisque les autres, leur opinion vaut la vôtre. Et si vous avez accepté ce présupposé, vous ne pouvez plus adhérer à une vérité ferme, donc vous allez adhérer non plus à la vérité, mais à la plateforme commune, à l'espèce de bargouniade, de soupe, d'opinion moyenne qui va ressortir des débats du groupe. Et quand le groupe se réunira la fois suivante, il va encore redébattre et il refera encore une soupe d'arguments moyens qui sera encore plus bas, encore plus loin de la vérité, et vous arriverez inévitablement au néant intellectuel. C'est toujours de la même manière que ça marche. Politiquement, c'est comme ça que fonctionne la révolution depuis 2 siècles. Regardez où on en est rendu. Les faits parlent. On a tout détruit. Alors, vous commencez à voir comment est constituée cette plante, ce club, comment il fonctionne, comment la sève circule dans cette plante. Et par conséquent, on est bien obligé d'en arriver à étudier maintenant, dans cette troisième partie, quels sont ses fruits. Autrement dit, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça donne. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à réduire les gens. Ça sert à leur communiquer, à les pénétrer d'une idéologie qui n'est pas affichée comme telle au départ, mais qui est l'aboutissement inévitable de la vie en club, de cette vie de société qui est une fausse société. Cette société qui va être fondée sur la compréhension mutuelle, sur le développement des amitiés entre les hommes et les femmes de tous les pays, autour de l'idéal d'une paix universelle, etc., etc. Vous voyez, je remue, comme ils le font, des quantités de termes, de mots qui sont à la fois vides de sens et pleins de sens différents, parce que c'est toujours plein de mots, n'est-ce pas, la compréhension mutuelle. La compréhension mutuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Faut l'expliquer. Comme on ne l'explique pas, ça va s'expliquer où? Ça va s'expliquer dans les débats du club, dans l'ambiance confraternelle de recherche d'une opinion qu'on appellera pas la vérité, mais qu'on amènera peu à peu dans l'esprit des gens comme une certitude morale, comme la référence collective du club, laquelle, bien entendu, sera aussi collective aux autres clubs, car on aura des échanges de vieux avec eux, on les invitera, on aura le passage des permanents du club, etc. Alors cet idéal, il faut que j'en dise quand même un mot, parce que cet idéal, cette forme d'idéal, bien, c'est le naturalisme. C'est très important de le dire, parce que le naturalisme, c'est, comme disait le cardinal Pie, l'hérésie, le syncrétisme total de l'hérésie moderne. Le cardinal Pie, j'ai peut-être noté sa page, voyez-vous. Ça doit être page 54. Voilà. Le naturalisme, dit le cardinal Pie, c'est le premier et le dernier mot de l'erreur contemporaine. La revendication du droit acquis ou inné de vivre dans la pure sphère de l'ordre naturel, droit que cette humanité moderne refuse de faire céder devant aucune intervention quelconque d'une raison et d'une volonté supérieure à la raison et à la volonté humaine, devant aucune révélation ni aucune autorité émanant directement de Dieu. Autrement dit, c'est le rejet par principe de tout dogme. À partir de ce moment-là, que sera la paix? La paix sera ce que l'opinion moyenne des hommes décidera. autre chose. Or, nous venons de voir que tout le processus du club, qui est identique à celui de toute la vie politique, de toute la vie sociale, de toute la vie qui nous entoure, c'est justement de fonctionner confraternellement dans la recherche d'une volonté commune. Et c'est cette volonté commune qui sera le dogme, qui remplace le dogme. Il n'y a plus de référence, il n'y a plus d'axe de référence, il y a la volonté humaine érigée en souveraine. C'est tout l'esprit, nous sommes à plein cœur, n'est-ce pas, de la révolution dite française et de la révolution en général. Alors quand on vous dit, n'est-ce pas, que, par exemple, la table ronde, favoriser le rapprochement entre jeunes hommes exerçant des professions différentes, démontrer que toute profession exercée avec honneur et conscience est utile à la communauté, favoriser l'entente, etc. L'éthique du lyonisme. Le lyonisme apparaît comme un humanisme, c'est-à-dire une conception de l'homme engagé dans ses relations avec ses semblables. Vous reconnaissez tout le verbiage de l'action catholique, au passage, hein? C'est aussi l'attitude de l'homme engagé. Alors, on est engagé. Quels sont vos engagements, mesdames et messieurs? Dans une voie qui le rend solidaire de tous, ce qui lui impose un comportement sans défaillance envers les autres et envers lui-même. Hein? Suivant la même voie, le lyonisme de ce dernier quart de siècle s'oriente encore vers cet art de vivre qui suppose l'unicité du comportement de l'homme vis-à-vis des autres, vis-à-vis de lui-même, mais aussi, pour être efficace, l'ouverture vers l'extérieur. Avec ça, vous allez où vous voulez. Tout ce que je viens de vous lire là, c'est du baratin vide. C'est le prototype de la littérature d'éloge. Avec ça, vous pouvez conduire les gens à n'importe quels idéaux, et c'est bien le but de la manœuvre. C'est ce qu'on va voir. Nous avons ici un groupe réducteur. Nous avons une société qui fonctionne confraternellement dans la recherche indéfinie d'un idéal humain qui écarte et qui pourchasse, qui rejette toute espèce de dogme, toute espèce de vérité objective. Mais peut-elle y arriver? Vous tenez à me rater. Peut-elle y arriver? Peut-elle y arriver seule? Alors là, je pose un principe, voyez-vous. Il n'y a pas de société qui fonctionne sans chef. Par conséquent, dans les clubs, il y a des chefs. Je pose un principe qui correspond aussi, bien sûr, à une constatation. Quand, en mai 1968, j'ai vécu mes 68 dans Paris comme jeune cadre d'une société qui a été mise en grève, enfin, j'ai vu les assemblées générales étudiantes, j'avais encore plein d'amis qui étaient étudiants. J'ai vu se constituer des syndicats pour réagir dans ma société, j'en ai fait partie, j'ai vu comment ça tournait. C'est passionnant d'ailleurs comme observation, je dois vous dire que ça m'a énormément éclairé et ouvert les yeux, parce que j'ai vu de l'intérieur comment ça fonctionnait. Mais il est évident que ce processus, si vous voulez, de liberté-égalité, qui par le biais de la fraternité entraîne à réduire, etc., il fonctionne, il peut à la limite fonctionner un peu tout seul pendant un certain temps. Mais il fonctionne jamais tout seul longtemps. En réalité, il se crée parallèlement. Ce sont des lois, ça, qu'il faut connaître. Il se crée aussi une sélection. C'est-à-dire que, si vous voulez, on peut énoncer des théorèmes là-dedans. On peut dire un groupe d'égaux délibérants qui délibère suivant la liberté, l'égalité, la fraternité, va toujours rechercher une motion commune qui va être toujours plus loin de la vérité objective à chaque fois qu'ils se réuniront. C'est un théorème, ça. Et vous l'observerez. Vous le trouverez, d'ailleurs, là-dedans, énoncé d'une certaine manière. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que parallèlement à ce fonctionnement, il y a aussi parmi les membres du club, du groupe, des gens qui sont là, automatiquement une sélection qui se crée. C'est-à-dire que vous avez l'élimination des poids lourds et la mise en vedette des poids légers. Je compare ça à un phénomène de triage qui est utilisé dans l'industrie, n'est-ce pas, pour séparer les matériaux lourds des matériaux légers. On brasse tout ça dans l'eau et puis on laisse se décanter. Les pierres lourdes tombent au fond. Les pierres les plus légères restent à la surface. Après, on coupe en deux et on récupère les uns ou les autres. Là, vous avez exactement le même phénomène. Vous avez des gens qui ne supportent pas le fonctionnement que je viens de décrire et qui vont, tôt ou tard, ou s'en aller sans rien dire, ou ne plus revenir, ou faire un scandale et se faire virer. Alors ça, en mai 68, on l'a vu, les virages manu militari, aussi bien que les gens qui ne revenaient pas. Mais également, vous avez des gens qui vont s'y plaire plus que les autres. Ce sont les gens qui sont plus, que je qualifie de plus légers, parce que chez eux, la notion du réel est plus, lointaines. Alors ils sont plus propres à s'adapter à cette opinion moyenne qui se crée, à y briller, à parler, etc. Et ces gens-là, ils vont devenir ce que j'appelle les princes des nuées, c'est-à-dire qu'ils vont être les gens les plus parfaitement en harmonie avec le mouvement idéologique qui se crée. Mais vous avez aussi par derrière ceux qui savent à l'avance ce qui va se décider. Expérience que je vous propose, vous pouvez la faire quand vous voulez. Méfiez-vous, c'est un jeu dangereux, je ne vous le recommande pas. Je l'ai joué, et j'ai des amis qui l'ont joué. Comment faire pour constituer un groupe réducteur et obtenir la motion que l'on désire à l'avance? C'est très simple, vous réunissez 12 personnes. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire qu'il y a un chef. Puisque je dis, vous réunissez 12 personnes, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris une initiative et qui a invité 12 personnes à venir se réunir avec lui. Vous voyez que dès le départ, on ne peut pas supposer un groupe sans une hiérarchie, sans des chefs, puisqu'il ne peut pas matériellement se réunir par hasard 12 personnes. Ou alors là, c'est un incident dans le métro et il s'agit de porter secours à un blessé, c'est autre chose. Mais on va se réunir dans une chambre pour discuter de politique, de religion ou de n'importe quoi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a invité 12 personnes. Donc déjà, moi, ou celui d'entre vous qui veut tenter l'expérience, va inviter 12 personnes. Et il va leur dire, ben voilà, comment régler, je ne sais pas, moi, la marche des crabes dans le désert, ou n'importe quel phénomène social, comment va-t-on régler la circulation dans Lausanne, je ne sais pas, enfin bref, résoudre la forme des ronds-points à l'anglaise, ou pas n'importe quel sujet, hein. Bon. Et puis vous discutez, vous débattez, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire comme ci, ah ben non, il faudrait faire comme ça, ben non, moi je suis pas d'accord. Bon, et il s'instaure ce truc. Alors, à un moment donné, ça va se séparer, vous laissez faire. Puis ensuite, vous suscitez une deuxième réunion. Mais cette fois-là, vous avez entendu parler les gens. Donc, moi, le noyau dirigeant, j'ai remarqué qu'en fonction de la disposition que je veux faire prendre au groupe, il y a, parmi les gens qui sont là, deux personnes qui étaient assez proches de mon point de vue. Mon point de vue que je n'ai pas exprimé. Il faut se garder d'exprimer un avis dans ce cas-là. Vous jouez le jeu du franc-maçon qui veut faire décider par l'Assemblée nationale telle ou telle décision. C'est ça le jeu que je vous fais jouer en ce moment, fictivement. Par conséquent, moi, le noyau dirigeant, j'ai réuni les 12 personnes, je les ai fait causer, j'ai remarqué que 2 ou 3 d'entre eux, c'était pas loin du projet que je veux faire adopter. Je vais donc, en dehors du groupe, les réunir, ou aller les voir un par un, ce qui est encore mieux, et leur dire, écoutez, vous êtes bien d'accord, alors à 2 personnes, on va se mettre d'accord. Puis il y a 2 personnes avec un autre, puis il y a 2 avec un autre. Et puis je reconvoque les 12 personnes. Mais cette fois-ci, sur les 12 personnes, il y en a 4 ou 3 qui sont d'accord d'avance. Donc on va remettre en débat. Mais il va se créer un courant dominant parce qu'il y a 3 personnes qui vont successivement exprimer le même avis. Donc les autres vont avoir l'impression d'un consensus d'idées qui va vers ce côté-là, puisque 3 forces sur 12 convergent. Donc ça va petit à petit s'organiser. Il va y avoir encore un peu d'opposants, mais enfin, on va aller vers ce mouvement. Et puis, au bon moment, ben, vous sortez la motion toute prête et tout le monde la signe. Et c'est ainsi, messieurs et dames, que fonctionne la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, c'est une monarchie occulte. La démocratie, ça n'existe pas. C'est une fiction. La démocratie que nous avons, nous, en France, elle se situe au club du siècle ou au club de l'horloge, où il y a 12 ou 30 clampins qui décident de l'avenir de la France, et qui ensuite le font adopter en faisant voter comme des moutons les Français, parce qu'on aura fait une opinion moyenne, et qu'on leur aura imposé, puis qu'il faudra dire oui ou non, puis c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, les clubs, ça fonctionne aussi comme ça. Les clubs, ça fonctionne comme ça, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ils ont été fondés, alors c'est là que j'arrive au jugement sur le fond, sur les fruits, ils ont été fondés, et ils sont toujours fondés par des francs-maçons. Mais très peu. Le Rotary Club a été fondé par un avocat de... Bon, je ne me souviens plus du pays, excusez-moi, peu importe, de Chicago. C'est des avocats. Le Lions Club a été fondé quelques années plus tard par un autre avocat. Et c'était des francs-maçons. Et ils ont recruté des gens qui ne l'étaient pas. Et dans toutes les villes où se crée un club, ben, il est fondé par 2, 3 ou 4 clubistes précédents, des gens qui ont l'âge et l'expérience dans le club. C'est-à-dire qu'ils sont déjà un noyau dirigeant et qui vont recréer sur place un noyau dirigeant complémentaire. Et par conséquent, vous voyez que de ce fait-là, on se retrouve devant une structure sociale qui répond à des besoins apparents, mais qui en réalité, à l'insu de ses membres, a un but parfaitement idéologique, qui est celui du naturalisme et de l'idéologie maçonnique, l'humanisme moderne, c'est ça. On crée dans les clubs des humanistes. Si bien que le club fonctionne, de fait, à double entrée. Il faudrait presque faire un petit dessin pour montrer le jeu. La franc-maçonnerie elle-même fonctionne comment ? Par cercle concentrique. C'est-à-dire que si vous la regardez par l'extérieur, vous avez un grand cercle extérieur. C'est la franc-maçonnerie bleue, par exemple. La franc-maçonnerie bleue qui comporte les maîtres, les compagnons, enfin c'est la petite maçonnerie, ça c'est le menu fretin. Et qui ont leur loge, alors avec leur rite, leur truc, et puis leur confraternité, tout ça, puis leur secret. Qui est quelquefois tout à fait un secret bidon, parce qu'à la limite, ils vont sortir avec des grands manteaux, des insignes, des houppettes. Et tiens, celui-là, il en est. Oui. Mais par derrière eux, il y a une autre maçonnerie, un autre cercle intérieur, beaucoup plus restreint déjà, qui concerne d'autres loges, dans lesquelles il y a des grades initiatiques supérieurs, c'est-à-dire des gens qui vont beaucoup plus loin, non pas tellement dans le secret par rapport à l'extérieur, que surtout dans la connaissance du but secret de la maçonnerie. Et puis alors, à l'intérieur encore de ce cercle-là, il y a encore un autre cercle, et puis il y a encore un autre cercle. Et à la fin, vous ne trouvez plus que quelques personnes qui, par ce jeu très subtil des noyaux dirigeants, influent un certain nombre de personnes qui sont présentes dans les autres loges pour y influer dans le sens que le centre directeur souhaite, qui eux-mêmes délèguent d'autres pour influer dans les cercles successifs. C'est comme ça que ça marche, la maçonnerie. Mais de manière beaucoup plus complexe, en ce sens que vous n'avez pas un seul centre, ni une seule série de cercles concentriques, mais que vous en avez plusieurs. Hein, par exemple, vous avez des loges qui sont concurrentes, et puis vous avez des loges même qui sont ennemies, et par conséquent qui quelquefois se combattent. Vous avez des loges de gauche, vous avez des loges de droite, vous avez des loges du centre. Et par conséquent, il y a des interférences entre ces différents cercles concentriques. C'est ce qui complexifie beaucoup le jeu et le rend quelquefois très difficile à percevoir. Alors ici, si vous voulez, ben nous sommes à l'extérieur de la maçonnerie. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une maçonnerie. Ça n'est même pas une crypto-maçonnerie. C'est un club de service. Alors ce club de service, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Quel joue au jeu ? Quel rôle joue-t-il dans la société ? Bien celui d'un cercle extérieur. Un cercle extérieur qui n'est d'ailleurs pas forcément concentrique à tel ou tel cercle maçonnique, mais qui est extérieur et qui comporte à son insu et à son intérieur une hiérarchie invisible, celle des frères qui sont là pour le téléguider, pour choisir les gens, pour les promouvoir, pour choisir les thèmes, mais qui ne le font pas par voie d'autorité ouverte. Ils le font, comme toujours dans la démocratie, par chuchotement, par influence, par suggestion. C'est beaucoup plus subtil. Ce que je vous décris là, les francs-maçons lui ont donné un titre très significatif. Ils appellent ça l'art royal. L'art royal, c'est-à-dire l'art d'exercer leur monarchie réelle, leur toute puissance, sans qu'on puisse jamais les connaître, ni les voir, et sans qu'on puisse jamais savoir d'où vient la pulse. J'exagère en disant sans qu'on ne puisse jamais. Si on le voulait, on le peut. Je dirais même que c'est assez facile à déceler. Dans certaines structures, en particulier comme les clubs, vous savez, il n'y en a pas pour longtemps pour les reconnaître, à les reconnaître. Mais ils sont là. Et ils sont tapis. Et ils suscitent, ils en favorisent, ils accélèrent ce jeu, cette diffusion des idées, cet aplatissement des consciences dans l'esprit de l'humanisme, dans l'esprit du naturalisme. Ce qui a pour résultat deux choses. D'abord dans le sens sortant et ensuite dans le sens rentrant. parce que naturellement dans le club, vous allez avoir un effet vers l'extérieur et un effet vers l'intérieur. L'effet vers l'extérieur, ce que j'appellerais l'effet centrifuge, ben, c'est la diffusion des idées. Rendez-vous compte que par ces clubs sont maintenus en France quelque chose comme 200 ou 300 000 cadres de la vie professionnelle, civile, ecclésiastique, car il y en a, et de toutes les professions, les avocats, tous les gens qui ont une position influente, ils sont là. Le soir, quand ils rentrent du club, ils parlent à leur femme, qui parle à ses amis, ils parlent ensuite à leurs collègues. Ils ont une influence dominante sur l'idéologie moyenne des gens. Et pourquoi croyez-vous que les gens votent toujours de la même manière dans votre pays? C'est à cause de ça. C'est parce que les idées passent de cette façon-là. C'est-à-dire que les clubistes, les membres des clubs, à leur insu, étant influencés, étant persuadés de toutes sortes de choses, vont ensuite vers, tout naturellement vers les gens et propagent ces idées. Et comme ils sont les cadres, ben, ils propagent avec une efficacité d'autant plus grande. C'est bien évident. Et puis dans l'autre sens, ben, dans l'autre sens, il y a le recrutement. Et ça, il est évident, et tout à fait à l'insu de la plupart des membres des clubs, que c'est une plateforme de d'analyse. Les gens sont testés, là. Il y a sur 20 personnes du club, 3 ou 4 personnes qui les observent en permanence et qui voient bien celui qui devient, comme je le disais tout à l'heure, un prince des nuées, c'est-à-dire quelqu'un qui va être de plus en plus en harmonie avec l'humanisme que l'on développe, avec les idées qu'on expose, etc. Donc celui-là, bah, tôt ou tard, on va l'amadouer. On voit que vous êtes particulièrement intelligent. Vous avez vraiment compris le sens, l'esprit de notre action. Mais vous savez, si vous vouliez, vous pourriez peut-être aller plus loin dans la vie. Si vous veniez à une réunion, on pourrait en parler un de ces soirs. Et c'est comme ça que le clubiste doué, le prince des nuées, se retrouve franc-maçon un beau jour. C'est un territoire de recrutement particulièrement efficace. Donc vous voyez bien les deux sens. Vers l'aspiration vers les centres d'influence, vous avez les gens qui vont s'y distinguer le plus et qui vont se laisser recruter. Et vers l'extérieur, vous avez le passage de toutes les idées qui proviennent de la maçonnerie. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous en dire? Beaucoup d'autres choses, mais on commence à s'approcher des 90 minutes, malgré que j'ai essayé d'être bref. Et par conséquent, il faut que je pense à commencer à conclure. Et ma conclusion va peut-être vous surprendre. Ma conclusion, c'est que le clubisme, c'est jamais qu'un tout petit phénomène parmi tous les autres. Ma conclusion fondamentale, c'est que ce que je viens de vous décrire se retrouve dans des foules d'autres structures, et que ce petit livre que j'ai écrit là, j'aurais pu l'écrire sur des quantités d'autres structures. Je le dis d'ailleurs à la fin. Je pourrais décrire les clubs d'Action catholique, par exemple, exactement de la même manière. L'Action catholique a joué exactement le même rôle, suivant le même fonctionnement, et pour les mêmes raisons. Avec un territoire, avec un terreau légèrement différent au départ, c'est-à-dire qu'on a voulu organiser l'apostolat des laïcs. Malheureusement, on l'a organisé dans un contexte absolument désastreux, puisque Mgr Join, dans la Revue internationale des sociétés secrètes, disait déjà en 1929, donc l'Action catholique existait en France depuis un an ou deux, et il existait la JEC et la JAC, il a écrit dans son bulletin, la JEC est la tenue blanche des loges françaises. La tenue blanche, ça veut dire, c'est un peu ce que sont les clubs, c'est-à-dire que c'est un groupement qui est public, qui est ouvert, qui n'est pas secret, mais qui est, en fait, le terminal de la maçonnerie. Et c'est dans ces mêmes numéros de la RIS que j'ai lu que j'ai découvert que Mgr Join signale, par exemple, que en 1928, les premiers bulletins de la JEC ont été imprimés chez Marc Sangnier sur les presses du Sillon. Autrement dit, l'Action catholique, dès ce moment-là, qui arrivait en France, c'était le Sillon qui resurgissait. On pourrait le dire de foule d'autres choses, et en particulier, en particulier des syndicats. Le syndicalisme, c'est le club des pauvres, c'est le club des ouvriers, parce que le club Rotary, les autres, c'est pour les classes dirigeantes. Je ne vous les ai pas tous mentionnés, hein, parce qu'il y en a une quantité absolument faramineuse. Vous avez même des clubs, le club des surdoués, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Innerwelt, je crois, qui ne recrute exclusivement que des gens dont le QI, le quotient intellectuel, est supérieur à 130, je crois. Il doit y avoir 300 membres dans l'Europe. Hein. Vous avez des trucs absolument de tout genre. Mais de toute façon, les clubs, le club, le Rotary, les Lions, tous ces trucs-là, ça s'adresse aux cadres. C'est les gens qui ont une influence sociale. Mais vous avez tout le reste, hein. Vous avez tout le reste. Je viens de vous parler de l'Action catholique, juste une évocation très, très brève, mais enfin, il est évident qu'on pourrait repasser toutes les mêmes analyses sur la façon dont ça fonctionnait. Hein. Dans le monde économique, vous avez la même chose. Vous avez les... Alors, c'est d'ailleurs classé dans les clubs, du moins dans le... Mais enfin, c'est d'une nature un petit peu différente, mais enfin, les chambres économiques sont organisées comme ça. Alors, les coopératives, ça récupère les braves paysans qui se font avoir, mais d'une façon scandaleuse et outrancière dans les coopératives depuis des dizaines et des dizaines d'années, du moins en France. Je sais pas comment ça se passe en Suisse, mais c'est-à-dire que c'est effrayant. Le domaine... Alors, évoquons simplement, parce que là, on rentrerait dans un monde... énorme, c'est les milieux culturels, l'action culturelle en France, les chambres, les maisons de la culture, les clubs med, tous ces machins-là, c'est inimaginable. Vous avez là des fonctionnements du style club, le club méditerranéen, qui porte d'ailleurs le nom de club, mais enfin, qui, on y rentre, on y vient, vous allez faire un voyage, vous avez le bourrage de crâne et le lavage de cerveau. Des loges maçonniques en permanence, et ça atteint, alors c'est le touriste. C'est vous, si vous voulez, c'est n'importe qui. Les maisons de la culture, c'est une machine à broyer la culture. Moi, j'appelle ça d'ailleurs les maisons de l'inculture. Il faut quand même pas confondre. C'est effarant, les organisations de Charles de Gaulle et de Malraux en France. Il y a eu des livres décrits dessus, et ça le mérite. C'est une machine à broyer les mentalités et à laver les cerveaux absolument effarante. Alors, à la limite, ma question est de dire qui, aujourd'hui, peut échapper à ce quadrillage. Ben, ma foi, nous. Je pense qu'il est très facile d'y échapper, à condition d'en avoir la volonté et d'être conscient du phénomène. L'individu peut toujours, la famille peut toujours se sauver de ces structures-là, à condition de les connaître. Et le drame, c'est que beaucoup de gens ne les connaissent pas. Très curieusement, depuis que j'ai sorti ce livre, j'ai eu plusieurs correspondances de gens qui étaient dans des clubs. Déjà au moins 4 ou 5 qui m'ont dit, après avoir lu votre livre, j'ai donné ma démission, j'ai compris. Ça, déjà, ça me fait un petit plaisir, parce que, je vois que j'ai pas été inutile, mais j'ai eu même des gens qui m'ont fait dédicacer ce livre dans des réunions, en me disant, mais monsieur, regardez, moi je suis lyoniste, je comprends pas. J'en ai un qui m'a dit, mais monsieur, je comprends pas, qu'est-ce que vous avez... Vous croyez que c'est si mauvais que ça? C'est pas possible. On fait, écoutez, j'organise tous les ans un pèlerinage à Lourdes des membres du Lyons Club. J'ai dit, écoutez, continuez, mais lisez quand même mon livre. Et j'ai discuté avec lui 3-4 minutes, et au bout de 3-4 minutes, il était tout de suite ébranlé. Mais c'était vraiment un très brave homme. C'est pour ça que je crois qu'il est important d'attaquer le problème d'une manière... autre que par la maçonnerie. Parce que si on commence à traiter les gens de francs-maçons, on les rebiffe. Et vraiment, réellement, beaucoup ne sont pas du tout maçons, et n'ont absolument pas l'esprit, ne sont pas conscients. C'est très subtil, ce jeu. C'est très subtil. Et regardez bien autour de vous, car très souvent, vous serez, vous, confronté à des processus du même genre, dans vos professions, dans votre entourage, dans vos coopératives d'immeubles, dans que sais-je. Presque toutes les structures sont infiltrées de cette façon-là, sont tenues de cette façon-là, sont inspirées de cette façon-là. Mais n'attaquons pas un clubiste en lui disant « Ouais, vous êtes un franc-maçon. » Parce que c'est pas du tout ça. Il faut lui ouvrir les yeux. Il risque de le devenir. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Voilà. J'ai pas tout à fait atteint les 90 minutes, mais vous ne m'en voudrez pas, j'espère. J'ai encore 4 minutes. Oui, mais je préfère le consacrer aux questions, parce que le plan de mon exposé, sinon... Si vous voulez, je me permets en terminant quand même de répondre d'avance à une question. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on me la pose, et on me dit, mais comment avez-vous pu savoir tant de choses sur les clubs et c'est presque sous-entendu, mais enfin, vous êtes dedans, vous avez des tuyaux, vous êtes franc-maçon pour connaître la maçonnerie aussi bien. Alors, je vous rassure, je ne suis pas franc-maçon, grâce à Dieu, et je ne suis pas non plus clubiste. Et je ne l'ai jamais été. Mais je crois que c'est utile de le dire, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, effectivement, qu'on puisse arriver à connaître assez bien, quand même, une structure sans avoir jamais été dedans. Mais c'est évident. Ce livre, si vous voulez, c'est 25 ans d'observation. Hein. Ça fait 25 ans que je collectionne systématiquement tout ce que je trouve comme documentation, comme publication. Alors, les journaux, j'ai une pile épaisse comme ça, de coupures de journaux, parce qu'ils ne se cachent pas. Ce n'est pas une société secrète. Ils ont un insigne, donc vous les rencontrez, vous les voyez. Dans les journaux, ils publient alors leur dernier convent, leur dernier machin, leur dernière réunion. Ils ont reçu un tel intronisation dans le club. Tout ça, il y a des photos de la presse et tout. Donc vous avez une masse d'informations possibles déjà par ce biais-là. En plus, il suffit de leur écrire, il suffit de chercher dans le quid. Vous prenez le quid en France, je ne sais pas si c'est connu en Suisse, mais enfin dans le quid, vous avez des foules de détails sur le nombre de membres, le nombre de clubs, où ils sont, les clubs, la description des clubs, leur programme, leur truc. Vous leur écrivez, ils vous envoient des tas de papiers. Moi, je vais récupérer des tas de papiers comme ça. Et puis, vous discutez avec les gens. Mais je n'ai absolument pas fait autre chose. Mais je me permets de le dire parce que c'est intéressant. Il faut savoir observer. Et nous ne savons pas assez observer. Nous ne sommes pas méthodiques et systématiques, si vous voulez. Et quand on l'est, bon, on arrive à peu près à tout savoir. Alors, évidemment, je me suis fait proposer au moins 3 fois de rentrer dans des clubs. Ça je dis, on ne me l'a pas épargné. Il y a une fois, d'ailleurs, je l'avais presque un peu cherché, parce que je déjeunais avec un expert dans une affaire et il arborait l'insigne du Kiwanis. Et à l'époque, je n'avais pas beaucoup de renseignements sur le Kiwanis. Alors, je me suis appliqué un peu à lui tirer les vers du nez, à le faire causer. Et puis, je m'y suis tellement intéressé qu'à un moment, il m'a dit, mais vous savez, si vous voulez que je vous parraine, on vous ferait rentrer. Parce qu'on ne rentre que par parrainage. C'est un des bons. Je m'excuse, hein, j'ai pas tout dit dans cette. Dans la limite de temps qui m'était imparti, mais je pense que vous lirez, j'espère, tous ce petit livre. Il n'est pas énorme, il n'est pas très impressionnant. Vous avez quand même beaucoup de choses dedans. Hein. Vous avez à peu près l'essentiel. Mais c'est plus à jour. Hein. Je parle par exemple du nombre de membres, etc. Je dis à quelle année, hein, parce que c'est déjà dépassé. Bon, enfin, qu'importe. C'est un phénomène qui se multiplie, qui se généralise d'une façon considérable. Voilà, je vous remercie de m'avoir supporté pendant presque 90 minutes, 90, excusez-moi, et je suis à votre disposition pour répondre à des questions si vous en avez.